Nexity présente Sud Radio, parlons immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, si vous venez de vous lever, que vous êtes en train de petit déjeuner, on est ravis de vous avoir pour Parlons Immo, on parle vrai sur Sud Radio. On est ravis d'être avec vous, avec toute l'équipe au programme. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on parle et on décrypte l'actualité immobilière avec l'ensemble de nos équipes. On va essayer de tâcher de résoudre vos problèmes et vous pouvez nous appeler, bien évidemment, également au 0826 300 300 pour nous poser toutes les questions. Vous pouvez nous laisser un message et on vous y répondra avec beaucoup de plaisir. Bien évidemment, on retrouvera nos rubriques habituelles avec Ça vous concerne, les témoins et les experts répondent en direct à l'ensemble de vos questions. Ensuite, on vous proposera un petit tour de France. Voilà, un petit tour de France des biens coup de cœur de la rédaction. Vous êtes sur Sud Radio, on parle immo et on va enchaîner tout de suite sur le journal. Bonjour Bérénice de Villefloriau.
Bonjour.
Alors, les infos de la semaine à retenir, on va commencer avec un assouplissement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle des conditions d'octroi du crédit immobilier?
Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est ce qu'a révélé la Banque Centrale Européenne, vous savez, la BCE, cette semaine. C'est la première fois depuis le quatrième trimestre 2021 que les banques de la zone euro signalent un assouplissement net modéré de leurs conditions d'octroi des crédits immobiliers accordés aux ménages. Je tiens à préciser que les conditions pour obtenir un autre crédit, par exemple un crédit à la consommation, se sont durcies en revanche pour les ménages en Europe. C'est une enquête qui a été publiée mardi. Elle a été menée entre le 29 février et le 15 mars dernier auprès de 157 banques qui ont toutes répondu. Et donc dans cette étude, on apprend aussi que les entreprises ont demandé moins de prêts au premier trimestre 2024. Et donc faut dire, je le rappelle, que les conditions d'obtention de crédit aux entreprises se sont durcies. Et même chose pour les prêts en ligne. Alors pourquoi les conditions d'accès au crédit immobilier se sont légèrement assouplies? Et bien premièrement, grâce à la concurrence d'une part. Toutes les banques sont revenues sur le marché du crédit. Donc il y a plus de concurrence et vous savez que quand une banque accorde un crédit, eh bien c'est l'occasion pour elle d'avoir de nouveaux clients. Et d'autre part, les banques sont plus tolérantes au risque pour les prêts au logement. Il faut dire que le risque d'endettement est moins sévère que pour un crédit immobilier que pour un crédit à la consommation par exemple.
C'est vrai que c'est un peu une particularité à la française. Est-ce qu'à question Bérénice que l'on nous pose, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer en cette période-là?
Alors, c'est la question, oui, que de nombreux Français se posent en ce moment, vu les taux des crédits qui sont plus ou moins autour de 4%. Bon, un petit peu moins, là, ça a baissé. Les prix immobiliers ont baissé, mais attention, pas partout. Et parfois, c'est très léger. Et puis, d'un autre côté, eh bien, il y a les loyers qui ont parfois augmenté dans certaines communes, quand il n'y a pas l'encadrement des loyers, ou même avec, enfin bref. Donc, c'est difficile de savoir s'il vaut mieux rester locataire ou devenir propriétaire. Meilleurs Agents a tenté de répondre à cette question cette semaine. Alors, pour vous expliquer, ils sont spécialistes de l'estimation immobilière en ligne, et ils viennent de publier une étude qui nous dit s'il vaut mieux acheter ou louer un bien de 70 mètres carrés.
Alors, quels sont les résultats de cette étude?
Alors, on est très attentif. 62 communes des 200 plus grandes villes de France, l'achat d'un 70 mètres carrés est intéressant donc avec une durée d'amortissement inférieure à 9 ans. Voilà, c'est ce qu'ils ont calculé. Et donc, dans ces communes, on retrouve Saint-Quentin, là il faut 4 ans pour amortir ce bien, Mulhouse, 4 ans et 1 mois, Creil, 4 ans et 8 mois, à Saint-Étienne, la durée d'amortissement est de 6 ans et 3 mois, à Angoulême, elle est de 7 ans et 8 mois. Alors à Paris, on parle souvent de la capitale, l'achat d'un appartement de 70 mètres carrés est rentable au bout de 11 ans et 11 mois. Pour Marseille, c'est pas loin derrière, c'est 10 ans et 4 mois. Les habitants de Lille, pour vous, c'est 10 ans et 5 mois. Montpellier, 10 ans et 6 mois. Nice, 11 ans et 7 mois. Et Bordeaux, 12 ans et 11 mois. C'est moins vite rentable qu'à Paris. Et donc, pour 27 communes parmi les 200 plus grandes villes de France, l'achat d'un bien immobilier de 70 mètres carrés met plus de 13 ans à être rentable. On retrouve Nantes et Rennes avec 13 ans et 4 mois et 13 ans et 5 mois. Et puis alors là, les villes où ça met longtemps à être rentable, c'est par exemple Annecy, ça met 20 ans. Saint-Germain-en-Laye, 20 ans et 2 mois, c'est en banlieue parisienne, c'est la banlieue chic. Saint-Malo, 20 ans et 5 mois. Anglais, 21 ans et 5 mois. Et les Sables d'Olonne, 21 ans et 9 mois. Donc voilà.
On va dire que...
Si vous habitez ces villes, voilà.
Comme quoi, finalement, les petites villes, les petits villages ont quand même le vent en poupe, bien évidemment. On termine, Bérénice, avec un bilan positif pour les Français qui ont emprunté après la mise en place de la loi Lemoine.
Oui, alors si vous ne savez pas ce que c'est cette loi, ça peut vous intéresser si vous avez, si vous êtes emprunteur, si vous avez souscrit un crédit immobilier. C'est une loi qui est entrée en vigueur, qui a été adoptée le 28 février 2022, pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Concrètement, ça veut dire que si vous avez souscrit une assurance emprunteur, vous pouvez la résilier à tout moment. Votre banque doit être très transparente par rapport à ça, d'ailleurs. Et ça a supprimé aussi le questionnaire de santé pour un grand nombre d'emprunteurs. Et donc, un an après sa mise en place, eh bien, on constate qu'il y a une hausse de 80% des demandes de substitution, donc entre 2021 et le premier semestre 2023. Donc, c'est un succès et je trouve que c'est une très bonne chose, cette loi.
Voilà, enfin, une bonne nouvelle pour conclure votre journée. Merci Bérénice, on se retrouve tout à l'heure pour Ça vous concerne avec les experts.
Sud Radio, parlons immo.
Eh bien, rebonjour les amis, si vous prenez le programme En Marche, on est ravis de vous voir. Voilà, nous sommes samedi, c'est le matin, vous prenez votre petit déjeuner et on parle immobilier, on parle vrai. Sur Sud Radio, on est ravis d'être avec vous, avec notre grand témoin du jour, Ludovic Delès, bonjour.
Bonjour, Sylvain.
Alors, vous êtes le directeur général de Colliers International, c'est la branche française de l'entreprise canadienne Colliers, qui s'écrit comme un collier avec un S. Mais on dit Colliers, c'est bien ça?
Absolument, tout à fait.
Alors, pour nos éditeurs qui ne connaissent pas Colliers, on peut dire que vous avez une gamme très diversifié de services immobiliers. Et à ce titre, notamment, vous occupez aussi bien de logements que de bureaux, entre autres, deux secteurs actuels dont on peut dire qu'ils connaissent une crise. Quel est votre regard sur cette crise immobilière? Je crois que nous sommes tous d'accord sur ces constats, avec l'augmentation des taux d'intérêt, du pouvoir d'achat. Le professionnel que vous êtes jette un regard plutôt constructif sur ce qui est en train de se passer?
Constructif, oui, parce qu'on peut toujours être positif sur l'avenir, hein, bien évidemment. Il est clair qu'on a connu successivement deux enjeux forts. Le premier, il y a quelques temps maintenant, mais le Covid, qui a toujours un impact, qui a changé pour les salariés leur attente vis-à-vis de leur lieu de travail, la manière dont on occupe les bureaux. Ceci a une conséquence très simple, c'est que les entreprises louent moins de mètres carrés qu'avant. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet plus récent, effectivement, c'est l'aspect financement, le coût de l'argent, donc le taux de crédit pour le particulier ou pour l'entreprise, qui a fortement augmenté. En 16 mois, on est passé de 1%, on va dire, à 4,5% quasiment. Donc forcément, ça a une conséquence très forte sur l'équilibre financier dès l'instant où vous voulez acheter, que vous soyez une entreprise ou que vous soyez un collaborateur ou vous soyez effectivement un particulier qui veut acheter
alors,
sa résidence.
Justement, Ludovic Delès, vous qui êtes un professionnel, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, quand on empruntait à 1%, est-ce qu'on était dans une période exceptionnelle qu'on ne revivra jamais? Ou est-ce que finalement la norme qui s'impose à tous, c'est un taux d'intérêt entre 3 et 4%? Moi, j'ai l'âge vénérable d'avoir connu des taux d'intérêt à 14%, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement entre les deux, au lieu de dire que c'est une crise, certes, une baisse du pouvoir d'achat, peut-être une régulation du marché. Qu'est-ce qu'on peut dire à celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent?
Il est certain qu'un taux à 1% signifiait que l'argent coûtait quasiment zéro. Or, dans un monde équilibré et bien fait, ça n'est pas possible, on le savait tous. La question maintenant, c'est combien doit coûter l'argent pour quelqu'un qui l'emprunte. Il est clair que si on est sur des taux aujourd'hui 4% avec une inflation plus ou moins proche, il y a une certaine forme de cohérence. C'est-à-dire que on achète et le coût de l'argent est le même que celui de la progression des valeurs.
Donc
part.
Les taux d'intérêt actuels vous paraissent cohérents?
Cohérents compte tenu de l'environnement
économique. On peut dire à nos auditeurs, il est toujours temps et toujours bon d'acheter aujourd'hui.
Ah bien évidemment, je pense qu'il est toujours temps et bon d'acheter aujourd'hui. Après, et Bérénice le disait juste précédemment, il y a un temps, j'irais, de rentabilité quand on achète un bien par rapport au fait de le louer. Ça, effectivement, c'est un élément que chacun doit calculer. On voit bien que géographiquement, cette notion sont différentes.
On va parler bureaux. Aux États-Unis, un bureau sur cinq était inoccupé. C'est un record depuis 1979. En France, on appelle ça le taux de vacance, c'est-à-dire les bureaux sont... Alors, vous avez dit une chose tout à l'heure, c'est que les entreprises prennent moins de mètres carrés.
Oui.
Elles occupent beaucoup moins le mètre carré. Question, qu'est-ce qu'on fait de tout ce mètre carré?
Eh bien, c'est une grande question aujourd'hui,
je pense. Des centaines de milliers, voire des millions de mètres carrés vides.
Pour donner un chiffre, c'est un peu plus de 4,5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France.
C'est énorme.
Faut savoir qu'en gros, chaque année, vous en louez à peu près 2 millions. Donc ça veut dire qu'on a 2 années de stock. C'est un peu plus que d'habitude, mais l'enjeu, il est peut-être différent au-delà du volume, c'est qu'on a surtout des immeubles de bureaux dans des secteurs et avec des caractéristiques techniques qui vont avoir énormément de mal à trouver demain des entreprises qui vont venir les louer. Donc le vrai enjeu de ces surfaces, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'elles vont devenir.
Vous imaginez ce que vous dites dans son écho, quand on sait qu'aujourd'hui on a des difficultés pour se loger.
Absolument.
Et que vous nous dites finalement qu'on a pratiquement 2 millions de mètres carrés qu'il faudrait reconditionner.
C'est le cas.
Est-ce que on peut réellement, très concrètement, au-delà des discours, transformer des bureaux en logements?
On le peut, sans aucun doute. Après, avant 2020, c'était 1% des logements étaient issus de la transformation. Je pense qu'il y a une accélération sur le sujet. Cependant, on a quand même des freins assez forts qui demeurent. Vous avez premièrement un frein politique. Il faut savoir que pour une commune, les bureaux vides rapportent plus que du logement, parce que quand vous faites du logement, faut établir des équipements publics. Ensuite, vous avez un sujet d'électorat, faut le dire très clairement, hein. C'est-à-dire que si vous construisez du logement, vous avez de nouveaux électeurs, sont-ils vos futurs électeurs pour le renouvellement de votre mandat? Ça, c'est le premier sujet politique. Le deuxième sujet, il est administratif, lié à ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de construire. Et là, il y a des zones sur lesquelles vous ne pouvez pas faire de transformation, même si aujourd'hui, il y a une loi qui a été déposée, un projet de loi au 7 mars, qui permettrait aux maires de déroger au PLU en fonction du secteur. C'est la première fois que le gouvernement se penche sur le sujet pour faciliter la transformation d'un point de vue administratif.
Mais vous avez un enjeu aussi. Vous convenez que c'est une alternative réelle pour le logement des Français?
Évidemment. Après, il y a quand même deux autres enjeux importants. Il y a l'enjeu technique. C'est-à-dire qu'il y a des immeubles qui, selon, je dirais, la taille des plateaux, la largeur, leur typologie de façade, ne peuvent pas se transformer facilement en logement parce qu'on perd trop de surface. C'est la différence entre la surface utile et la surface habitable.
On en fait quoi?
Ah bah, cela, on peut aussi faire d'autres choses. On peut faire du co-living, on peut faire des résidences gérées pour les personnes âgées, etc. Après, c'est une question de coût.
Et les raser?
Les raser, bien sûr. Alors le problème du raser, c'est que c'est un peu paradoxal avec notre envie RSE, empreinte carbone, et on sait très bien que c'est la restructuration qui aujourd'hui est plutôt le vent en poupe pour c'est l'esprit, on va dire, développement durable. C'est
Est-ce que ça coûte plus cher de déconstruire, c'est-à-dire de raser, ou de rénover ou de régénérer?
C'est impossible de répondre à cette question, Sylvain, ça dépend de l'immeuble. Une chose est sûre, c'est que les coûts de construction ont fortement augmenté, qu'à un moment, quand vous avez un immeuble existant, les coûts de restructuration sont pas loin du coût d'un neuf. Ce qui veut dire que pour acheter l'immeuble, il vous reste le prix du foncier. Or, quand vous êtes propriétaire d'un immeuble de bureau, vous n'avez pas envie de le prendre au mètre carré du champ.
C'est très clair.
On a un vrai problème de déséquilibre financier.
Alors, comme pour le bureau, Ludovic Delesse, les usages, la façon d'habiter ou la façon de consommer son bureau, son espace de travail, a changé.
Oui.
On raisonne plus en mètres carrés, mais en espace utile. Est-ce que les tendances pour l'habitat ont également changé? Tout à l'heure, vous avez parlé de co-living. Alors, c'était un truc un peu, ça faisait un peu bobo à l'époque, on parlait de co-living, mais est-ce que maintenant, cet usage du co-living parmi les jeunes trentenaires, d'ailleurs dont on est entouré entre Bérénice et Grégoire, sont des usages qui sont de vraies tendances, et comment vous les interprétez? Comment vous, en tant qu'opérateur et acteur clé de l'immobilier, vous vous adaptez à ces nouvelles, à ces nouveaux usages?
Alors clairement, c'est un marché qui connaît une très forte dynamique depuis 2-3 ans avec plusieurs acteurs. Aujourd'hui, on a de nombreuses opérations sur lesquelles on travaille, où on va soit construire des immeubles de co-living, soit faire de la transformation. Il est clair que le co-living répond aussi à une demande de la jeune génération. On voit bien, il y a des sujets de remembrement de famille aussi, ou de démembrement familiaux. Mais il y a les sujets aussi très importants de résidence étudiante, compte tenu aujourd'hui de tous les étudiants qui, à travers Parcoursup, ont des mobilités géographiques beaucoup plus importantes qu'il y a quelques années. C'est quelque chose qui a un vrai sujet. Il y a aussi une envie de la jeune génération qui arrive sur le marché d'avoir plus de services sur son lieu de domicile. C'est une attente au lieu de travail, tout ce qui est services, restauration, salle de sport, etc., conciergerie. Mais c'est aussi de plus en plus une demande sur son lieu d'habitation. Ce qui est intéressant, donc ça va transformer l'offre en termes de logement pour cette génération.
On accède de plus en plus tard à la copropriété, c'est-à-dire que l'accession à la propriété a pris 10 ans de plus si on compare à périmètre constant depuis les années 90. Donc, on arrivait à l'accession de la propriété en moyenne à 28 ans dans les années 90. Oui. Aujourd'hui, on est plutôt à 38 ans. C'est pas forcément une bonne nouvelle quand on sait qu'aujourd'hui, l'acquisition de la résidence principale est un des facteurs clés de l'anticipation de la préparation de la retraite, par exemple. Oui. Et notamment, les sujets qui sont liés à la dépendance. Pour rappeler qu'un Français sur 5 à 60 ans et que en 2060, c'est un Français sur trois qui aura plus de 65 ans. Comment on se prépare quand on est un opérateur également comme vous sur ces changements à la fois démographiques? Vous avez évoqué la décohabitation qui a fait exploser la demande de logement. Est-ce que ça peut dire qu'il faut revisiter Ludovic Delès, je sais que vous êtes très affûté sur le sujet, sur le droit de propriété et sur la façon de concevoir la... On a reçu il n'y a pas très longtemps Xavier Lépine qui nous a parlé avec Néoproprio d'une façon de co-acquérir finalement un bien. On parle d'immobilier fractionné, on parle de démembrement. C'est quoi votre point de vue aujourd'hui?
La première chose, il est clair que quand vous regardez la moyenne, en 10 ans, je crois que les salaires ont augmenté de 24% alors que le prix du logement augmentait de 33%. Donc forcément, il y a une rupture. En ce moment, vous avez la hausse des taux qui augmente cette rupture. Après, je me demande quand même si cette nouvelle génération est pas moins attachée à cette notion de propriété et qu'elle est plus attachée à une notion de flexibilité. Il y a aussi un enjeu fort, je trouve, c'est que vous avez un dernier sondage sur la volonté aujourd'hui des gens, en grande partie à 40%, c'est de trouver un meilleur cadre de vie. Et on se rend compte que 59%, hein, je dis bien 59% des gens de moins de 35 ans aspirent à changer de cadre de vie pour aller dans des communes moins chargées, pas forcément à la campagne, mais dans des métropoles, moins big métropoles, pour retrouver un cadre de vie.
C'est quoi? L'espace, de l'air, du verre?
Exactement, de l'espace. Et pour répondre plus précisément à la question, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui se développent. Il y a la copropriété, il y a le logement participatif, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire on se fait financer et plusieurs personnes participent à ce financement. Et tout ça, ça amène la flexibilité à l'acquisition. Encore une fois, je reviens, je pense que la nouvelle génération ne voit pas non plus forcément sa vie comme étant celle d'un foyer avec une famille qui va habiter 30 ans au même endroit ensemble.
Mais ça vous paraît cohérent d'anticiper finalement la gestion de son patrimoine en vue de la retraite, même parmi les jeunes, en se disant que le fait d'acquérir sa résidence principale, c'est une vision un peu maçonnienne, protectrice,
oui,
finalement,
de
la solide familiale. Alors, justement,
je suis pas sûr que les jeunes générations, Sylvain, soient très focussées sur ce sujet-là. Alors, on a énormément d'autres placements. Est-ce que la jeune génération...
Ils sont 87% à plébisciter l'accès à la propriété. Alors, ça, certes, c'est sans appel.
Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est l'influence des parents ou est-ce que c'est leur
alors,
propre...
Non, mais vous avez raison. C'est très intéressant puisque ce sondage, nous qui l'avons mené, il est surtout valable dans les territoires. Donc on voit bien qu'il y a Paris, la métropole, qui concentre quand même un cinquième de la population française, et une vision différente. Une dernière question sur justement le fait d'acquérir son logement ou de posséder son logement. C'est pas uniquement un outil spéculatif. Notre premier invité, c'était Charles Magnanakis de Century 21, qui disait la chose suivante: on n'est pas obligé, quand on revend l'appartement sur lequel finalement on a épargné toute sa vie pour pouvoir l'acquérir en pleine propriété, de faire une énorme plus-value. C'est peut-être ça qui a faussé un peu le rapport avec les Français. Vous partagez ce point de vue?
Je dirais qu'il a faussé le rapport. Je sais pas s'il a faussé. Les Français se sont rendus compte ces dernières années, les 20 dernières années, qu'on faisait qu'on achetait à 100 et qu'on pouvait revendre à 160. Tout le monde a envie d'en profiter. Bon, je pense que c'est relativement simple. Qui n'aurait pas envie de le faire?
Sylvain,
je suis très... Donc aujourd'hui, de ce réflexe, on se dit, aujourd'hui, si j'achète un montant, quand je vais le revendre, que je l'aurai payé, c'est un peu, effectivement, cette trésorerie que je vais créer qui va me permettre de passer une meilleure retraite. Alors aujourd'hui, vous avez quand même aussi en accès sur le marché d'autres systèmes pour acquérir de la retraite. Et on voyait, et Bérénice en parlait, il y a des villes sur lesquelles pour avoir la rentabilité d'une acquisition versus une location, c'est 20 ans. Quand même long, 20 ans, ils sont pas ces choses en 20 ans.
C'est clair. Alors effectivement, mais peut-être que la culture qui pourrait se développer, c'est une culture un peu hybride entre l'acquisition de sa résidence principale et le taux d'épargne que l'on peut faire sur d'autres types de...
Et moi, je vois de plus en plus de gens qui se disent, je serai locataire, j'aurais ma flexibilité, je louerais quelque chose de mieux que ce que j'achetais, que je pourrais acheter avec mon budget, mais parallèlement, je fais du placement financier. Est-ce que c'est pas une nouvelle option?
Et pourquoi pas? Merci Ludovic Delès. Je rappelle que vous êtes directeur général de Colliers International en France. Merci d'avoir passé
avec plaisir
le temps sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme.
Next City, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr. Next City présente Sud Radio. Parlons Immo.
Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Sud Radio pour Parlons Immo. On est ravis d'être avec vous. Un week-end ensoleillé pour certains, un peu plus mitigé pour d'autres. C'est le moment aussi de réfléchir sur son parcours résidentiel, mais aussi également de poser toutes les questions que vous vous posez toutes les semaines, tous les jours, sur l'immobilier, sur vos projets, au 0826 300 300. Vous avez d'ailleurs, pour la rubrique Ça vous concerne, posé une question avec sur Bérénice. On nous a posé une question notamment sur les loyers et les garanties.
Alors en fait, c'est Étienne. Voilà, c'est Étienne et Clémentine qui nous ont écrit. Alors ils habitent à Paris et en fait, ils ont investi il y a quelques années dans un petit appartement qu'ils louent et ils le louent directement. Et ce qui est arrivé, ce qui devait arriver à Riva, les locataires ne payent plus le loyer. Alors Delphine et Étienne ont entendu parler de la garantie loyer impayé. Ils avaient quelques questions à ce sujet. Alors là, c'est peut-être un peu tard, mais on va quand même accueillir un expert pour en parler, pour répondre aux questions, parce que voilà, pour eux, c'était pas très clair. Alors on accueille Alain Ledemay. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc vous êtes directeur général de Galian Assurance. Alors un petit mot pour commencer sur Galian Assurance.
Galian Assurance est une société d'assurance spécialisée dans les produits d'assurance destinés aux professionnels de l'immobilier et à leurs clients. Donc on assure les risques des professionnels et de leurs clients.
D'accord, donc les clients, c'est par exemple des propriétaires bailleurs comme Delphine et Étienne.
Ben oui, comme ces propriétaires qui, d'après ce que j'ai compris, ont rencontré un problème d'impayé de loyer.
Exactement. Alors, la garantie loyer impayé, qu'on appelle aussi GLI, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, c'est une garantie qui nous couvre, c'est ça, en cas d'impayé ?
Alors, c'est une assurance qui permet de compenser le loyer qui ne serait plus payé par le ou les locataires. Donc, c'est évidemment un contrat qu'il faut souscrire. Vous disiez c'est trop tard. Oui, malheureusement pour eux, aujourd'hui, pour vos auditeurs, c'est trop tard. Il faut donc souscrire la garantie des loyers au moment où, juste avant l'entrée en location, la mise à bail du bien, au moment de la mise en entrée des locataires dans le logement. Et à ce moment-là, en cas d'impayé, eh bien, le loyer est pris en charge par la compagnie d'assurance.
Et alors, est-ce qu'elle est prise en charge juste, enfin, est-ce que ce loyer est pris en charge dès le premier mois d'impayé ou est-ce qu'il y a une carence, vous voyez, un délai de carence?
Écoutez, ça dépend des compagnies. Pour ce qui nous concerne, j'ai une petite précision, nous assurons les administrateurs de biens. Et ensuite, les administrateurs de biens proposent ces produits aux propriétaires dont ils gèrent les logements.
Alors, pour nos auditeurs, c'est quoi un administrateur de biens?
Parce que... Un administrateur de biens, c'est un professionnel de l'immobilier qui a pour mission de rechercher un locataire et de mettre le bien en location en prenant toutes les précautions pour sélectionner un locataire qui est solvable par rapport au montant du loyer qui est demandé pour le logement mis en location.
D'accord, mais alors en règle générale, pour nos auditeurs, si le locataire arrête de payer son loyer, est-ce qu'il est couvert tout de suite ou est-ce qu'il y a un petit délai de carence?
Oui,
si
alors,
de combien?
C'est ça que je voulais vous préciser, c'est-à-dire que pour ce qui nous concerne, nous, chez Galian Assurance, il n'y a pas de délai de carence. Hein,
donc, d'accord, donc c'est tout de suite.
Dès le premier mois, on paye. Voilà.
Ok. Et alors, autre question, donc on imagine qu'elle n'est pas obligatoire pour un propriétaire, cette garantie, si elle est fortement...
Non, ça ne peut pas être obligatoire. Non, bien sûr.
Elle est fortement conseillée.
Elle est recommandée, effectivement. Évidemment, il ne faudra pas affoler les investisseurs. Il n'y a pas autant d'impayés qu'il y a de logements en location, mais ça, c'est le principe de l'aléa. Hein. Il peut
alors,
y
un
avoir
peu plus
problème.
En ce moment, hein, quand même. Hein.
Alors, justement, Alain Ledemay, merci d'être avec nous. Effectivement, c'est très important ce que vous nous dites, puisque ça pleut sur le standard de Sud Radio. Question, quel est le taux de sinistralité, je crois que c'est comme ça qu'on appelle le terme, de personnes qui ne paieraient pas leur loyer quand on prend justement la phase d'investisseur?
Bon, il faut distinguer l'impayé temporaire du vrai contentieux locatif. L'impayé temporaire, donc il y a un petit retard, c'est 5, 6, 7%, mais ça se régularise généralement très vite dans les jours qui suivent la date normale où le loyer aurait dû être payé. Donc ça, ce sont les professionnels de l'immobilier qui effectuent les relances et qui sollicitent les locataires pour qu'ils régularisent leur situation. Alors après, quand la situation n'est pas régularisée, il peut y avoir un véritable impayé. Donc là, il y a une carence pour payer le loyer. Le locataire ne paie pas et c'est de l'ordre de 2, 2,5%. Ça dépend des moments.
Mais ça, c'est ce que vous constatez avec vos chiffres à vous.
Absolument.
Je tiens à préciser que vous, vos locataires, vous les triez sur le volet et vous faites très attention, justement, vous prenez aucun risque. Donc il y a peut-être plus d'impayés chez les gens, justement, qui ne font pas, qui ne souscrivent pas à cette garantie.
Alors nous, on ne trie pas les locataires sur le volet. C'est les administrateurs de biens qui font une première sélection, qui nous transmettent leur dossier, et puis on fait ensuite les vérifications d'usage pour être certain que le locataire rentre bien dans les critères de la.
Mais du coup, il y a une sélection qui est plus fine que pour un propriétaire qui ne fait pas. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a, il y a moins d'impayés quand on prend une garantie loyer impayé aussi.
Très, très certainement. Et puis il faut dire aussi que dans le patrimoine qui est géré par les administrateurs de biens, il y a aussi des biens d'une qualité qui est généralement supérieure.
Et, alors,
et donc il y a moins de locataires qui ne paient pas parce qu'ils n'ont pas envie de payer.
Alors dernière question, combien ça coûte une assurance loyer impayé, une garantie loyer impayé?
Grosso modo, ça coûte entre 2,5 et 3% du montant du loyer. Donc prenons une base d'un loyer à 800 euros par mois, ça va coûter 24 euros pour le propriétaire.
Donc autant dire que c'est le prix, enfin ça vaut rien comparé à la tranquillité que ça.
Absolument. Un sinistre c'est 8, 9, 10, 1000 euros, ça dure des mois. Donc évidemment, si vous mettez ce que coûte une assurance en grosso modo un peu moins de 300 euros par an par rapport à un loyer, un impayé de loyer qui va coûter 10 000 euros, vous voyez, vous avez 30 ans de cotisation en face de l'impayé.
Justement, je voudrais compléter la question, c'est l'administrateur de biens, les auditeurs, donc l'administrateur de biens, c'est quelqu'un qui gère pour le compte du petit propriétaire son bien, il encaisse les loyers.
Il déduit
tout ce qu'il a à déduire pour l'assurance et il renvoie son loyer net à son client. C'est bien ça, Alain Ledmay?
Oui, c'est ça. Oui, là, l'administrateur de biens reçoit le loyer payé par le locataire. Il paie les charges de gestion pour le compte du propriétaire le plus souvent.
Il envoie la quittance.
Évidemment, la cotisation d'assurance, et puis ensuite il envoie le net au propriétaire.
Donc c'est beaucoup plus simple finalement de dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'il est parfois plus intéressant de passer par un administrateur de biens.
Bah écoutez, c'est pour moi c'est évident. Après tout le monde ne pense pas ça, mais c'est évident que évidemment, ne serait-ce qu'au regard du respect de la réglementation qui est complexe, on a tout intérêt à passer par un administrateur de biens.
On va dire que c'est la tranquillité. Merci beaucoup en tout cas, Alain Delemay. Je rappelle que vous êtes directeur général de Galian Assurance.
Merci.
Voilà, et on enchaîne tout de suite avec le bien viager. Voilà, un bien qui est présenté chaque semaine par nos partenaires Viagimo.
Sud Radio. Parlons Immo.
Voilà, un bien proposé en viager avec Viagimo, comme c'est l'habitude chaque semaine. Grégoire, où nous emmenez-vous?
Eh bien Sylvain, chers tous, je vous emmène cette semaine dans une ville colorée qui comprend l'une des plus anciennes universités d'Europe et aussi une statue du roi de la bière. Oui, est-ce que vous connaissez l'histoire de Gambrinus qui a vendu son âme au diable pour récupérer le secret de la fabrication de la bière? Mais je suis challengé par Jean-Marie toutes les semaines, donc j'essaye de trouver l'anecdote la plus originale.
À Jean-Marie Bordeaux.
Tout à fait. Alors moi, je vous invite à vous rendre, si vous ne connaissez pas l'histoire de Gambrinus, je vous invite à vous rendre à Toulouse pour admirer sa statue et en savoir un petit peu plus sur son histoire. Donc c'est là où on va avec notre partenaire Viagimo qui nous propose cette semaine un appartement de 4 pièces et 84 mètres carrés situé dans le secteur de Limérac, dans le quartier de la Côte Pavée. C'est dans l'est de la Ville Rose. C'est un appartement en duplex avec balcon et place de parking. Il est composé au rez-de-chaussée d'une pièce de vie, d'une cuisine et de WC séparés. À l'étage, vous retrouverez deux chambres, dont une avec dressing, un bureau et une salle de bain. Le petit plus de cet appartement, un balcon de 7 mètres carrés avec une superbe vue sur le quartier.
Alors, conditions du viager?
Alors ici, Sylvain, nous avons un bien qui est proposé en viager occupé au profit d'un homme de 70 ans. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 87 000 euros et une rente viagère mensuelle de 759 euros qui est revalorisable de 20% en cas de départ anticipé. Et enfin, la valeur vénale de l'appartement, elle est de 381 202 euros exactement. C'est une vraie belle opportunité que je vous conseille d'aller voir, foncer et de contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Toulouse ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr.
Sud Radio. Parlons Immo.
Eh bien, de retour sur le plateau pour parler des biens coup de cœur. Cette fois-ci, Grégoire, vous avez eu un coup de cœur pour la Touraine.
Oui, je vous emmène un peu plus au nord à Jouer les Tours, une ville située donc en banlieue de Tours, comme son nom peut vous l'indiquer. C'est une commune de 38 183 habitants dans lequel je vous emmène visiter un appartement entièrement rénové de 75 mètres carrés. Au premier étage d'une résidence paisible et très lumineuse, il est situé au premier étage de son immeuble. Il est composé de deux chambres, d'une belle pièce de vie, d'une salle de bain et d'une cuisine équipée. Il est idéal pour une petite famille qui veut s'installer. Notre bien, il est proposé au tarif de 173 000 euros par l'agence EXP France. Plus d'infos et photos sur le site expfrance.fr.
Alors, comme il est d'usage à la rédaction, on le finance comment ?
Alors, un apport de 20%, Sylvain, donc 34 600 euros, un emprunt sur 25 ans à 4%, et vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 730,53 euros.
Voilà, et vous nous emmenez sur une autre région. Alors, décidément, vous faites vraiment le tour de France.
Oui.
Cette fois-ci, on est de retour dans la capitale.
Oui, j'ai essayé de faire original pour ce deuxième bien. J'ai été un peu naïf.
Marqué pour Paris, 55 minutes en TGV.
Oui, voilà. Non, mais j'ai été un peu naïf. J'ai voulu acheter une maison à Paris. Et j'ai tapé une limite à 500 000 euros. Bon, bah, j'ai rien trouvé. Je me suis dit, allez, Greg, on est à Paris, c'est un peu cher. Bon, on augmente un peu. 600 000 euros. Bah, j'ai rien trouvé non plus. 700 000 euros, rien non plus. Et j'ai dit, bon, Greg, fait un petit effort. Et là, voilà, j'ai trouvé une maison de 71 mètres carrés au prix de 735 000 euros dans le 10e arrondissement. Voilà,
donc, pas Bérénice mal. Bérénice voulait la vendre.
Je vais vous aider, Bérénice. Donc, c'est une maison qui est située pas loin du métro Bonne Nouvelle, au pied des grands boulevards, dans un très bel immeuble ancien, en parfait état. Elle est dans la cour, la maison. Elle est composée de trois pièces, dont deux chambres. Il s'agit là d'un bien rare dans la capitale. Un bien que vous pouvez retrouver sur le site d'Orpi.
Alors, Orpi, justement, avec lesquels on fait pas mal de choses, et notamment sur des opérations ciblées en termes de prix. Alors, justement, comment on finance ?
Alors, avec un apport de 20%, Sylvain, soit 147 000 euros, un emprunt sur 25 ans à 3,89%, c'est ce que me proposait le site, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 3 068 euros.
Oui, ça ne s'adresse pas exactement à tout le monde.
C'était un essai, Sylvain.
Eh bien, voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour un programme toujours réponse à vos questions sur le parcours résidentiel et les questions immobilières. Et merci à toutes et à tous d'être toujours aussi présents chaque semaine. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous poser toutes les questions. Avec les experts vous y répondront tous les samedis matin. C'était au 0826 300 300. Je rappelle que cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur l'application de Radio Immo, sur toutes les plateformes d'écoute qui vont bien. Il suffit de taper la requête sur Google. Grégoire, on va retrouver notre invité la semaine prochaine. C'est Marie Zolagnon.
Tout à fait.
On parlera de Finestate.
On parlera de co-living, Sylvain, la semaine prochaine.
Absolument, le co-living. Question mythe ou réalité. Est-ce que cette tendance va s'installer ? On le sait aujourd'hui que les jeunes trentenaires qui arrivent dans les grandes métropoles ont des difficultés parfois à trouver un logement, mais ils sont aussi un peu seuls, et c'est peut-être l'occasion de rompre avec la solitude. Quand on arrive en ville, on ne sait pas réellement qui l'on va rencontrer. Peut-être que cette façon de faire ce que j'appelle vraiment le kibboutz urbain.
Oui, c'est ça. Parce que le co-living, pour expliquer aux gens, c'est voilà, des gens.
C'est
qui,
la cohabitation.
Qui ont des quoi, c'est un immeuble où il y a des appartements séparés, mais il y a des parties communes, voilà, la cuisine, le salon. Ça dépend des co-living.
C'est la colocation moderne.
Voilà. Oui, et ça peut être aussi également faire aussi une façon de revisiter la coloc à l'échelle industrielle, on peut dire. Voilà, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Et bien sûr, parlons Immo sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons Immo.